Vous écoutez un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
El Mundo, c'est l'étincelle, mais c'est plus qu'une étincelle. C'est ce qui a allumé le reste de ma vie parce que j'étais allumée, parce que j'étais pleine de rêves. Puis, c'est la sortie de l'enfance vers le monde adulte. Mais dans une époque d'une vie, 16, 17, 18 ans, où t'as tout approuvé puis t'as pas encore été écrasé par le monde extérieur. Donc, il y a une naïveté, il y a une pureté là-dedans. El Mundo est vraiment la clé d'ouverture pour le reste de ma vie.
Je m'appelle Fabiola Nirvaladin, je suis comédienne, enseignante, chanteuse, mais surtout mélomane. Je vous présente une série balado qui nous plonge dans l'histoire d'albums marquants de la musique québécoise. Dans cet épisode, on s'intéresse au premier album de Mitsou qui a donné naissance à cette étoile de la pop. En 1988, Mitsou Gélina rêve de devenir chanteuse. Déjà à 14 ans, elle joue du clavier dans le groupe Dance Lab. Par contre, c'est en solo qu'elle souhaite faire carrière. À la fin de l'adolescence, elle fréquente une boîte de nuit du boulevard Saint-Laurent, un lieu qui va devenir incontournable dans la vie nocturne montréalaise.
Le Belmont, ça a été vraiment le cœur de la musique montréalaise pendant un bon bout. Donc, j'ai commencé à le fréquenter vers l'âge, justement, de 15 ans, faut le dire, mais évoluait là-bas. Tout le monde qui faisait des spectacles se retrouvait après au Belmont. Donc, ça voulait dire les bébés, qui à l'époque étaient les beaux blonds, qui faisaient un spectacle avec Marc Drouin et les Échalotes. Donc, c'était le band de Marc Drouin. Marc Drouin étant le chum de Luc Plamondon. Tout ce beau monde-là se retrouvait au Belmont. Fait que c'était bouillant d'énergie, de créativité, de liens, de gens qui s'aiment, qui s'encouragent aussi. Et puis le DJ étant Jean-Pierre Isaac créait l'ambiance là-bas. Et puis dans le jour, il composait des chansons autant pour Martine Sinclair que justement les bébés. Puis moi par la suite. Alors j'ai commencé à faire des démos avec Jean-Pierre pour ses chanteuses. Puis à un moment donné, il est arrivé avec Bye Bye, puis j'étais comme, est-ce que tu me niaises? Tu peux pas donner ça à personne. Ça, c'est ma chanson, je la garde. Bye Bye, mon cowboy. Bye Bye, mon rodeo. C'est si dur de tomber si
bas quand t'as été si beau. Bye Bye, mon cowboy aurait pu être une pièce du groupe Les Bébés, mais Mitsou convainc le réalisateur Jean-Pierre Isaac de lui laisser la pièce. Ça a été la bougie d'allumage pour l'album El Mundo. L'artiste s'inspire des chanteuses européennes comme Lio, Mino ou Catherine Ringer d'Erita Mitsuko pour créer le personnage de Mitsou. Elle veut aussi s'inscrire dans une mouvance musicale électronique.
On est dans une période d'ébullition, là, juste avant de créer El Mundo. Au niveau musical au Québec, on sort d'une époque très, 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 très folk. Donc, les Richard Séguin, Fiori, évidemment, Paul Piché. Mais il n'y a personne vraiment de ma génération. À un moment donné, Richard Séguin, avec Hélène, qui est sa chef d'orchestre, commence à utiliser des sons qui sont un peu plus électro, mais il y a beaucoup de shame, il y a beaucoup de honte à utiliser un instrument qui n'est pas un vrai instrument, tu sais. Puis moi, mon album, on l'a créé au coin de Ontario-Saint-André, dans un demi-sous-sol. Je pense que le seul vrai instrument, c'est la guitare. Peut-être la basse que Jean-Pierre jouait aussi, mais ça a été créé que avec des synthétiseurs. J'avais un ton de voix aussi qui était différent parce que il y avait les artistes féminines à ce moment-là ne pouvaient que se permettre de pousser fort la note. Donc, il y avait de la force, puis il y avait du trémolo, puis moi, je suis comme, c'était pas le genre de musique que j'écoutais, fait que j'allais pas faire ça. C'était une note de moins dans mon bulletin, je te dirais, à la sortie de l'album, mais quand j'écoute ce que Cœur de Pirate fait maintenant, ce que Ingrid Saint-Pierre fait maintenant, de pouvoir nous chanter au creux de l'oreille avec une douceur, mais avec une puissance aussi, des mots, de l'intention, de la musicalité, des compositions, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis que il y avait quelque chose, c'était pas tout faux. Ce que j'étais en train de créer ou ce que je m'étais imaginé.
Difficile d'imaginer l'ampleur de la carrière de Mitsou sans l'apport du vidéoclip. Au début des années 80, MTV et VH1 prouvent qu'il y a un appétit pour ça aux États-Unis. Le Québec suit, quelques années plus tard, en inaugurant une station dédiée aux vidéoclips.
Quelques mois avant qu'on lance « Bye bye mon cowboy », j'ai assisté à un événement très spécial à Montréal, l'ouverture de Musique Plus. Je suis devenue Mitsou quelques semaines plus tard en lançant évidemment la chanson, mais surtout un vidéoclip, parce qu'il y avait pas, on pouvait pas imaginer un lancement d'album ou de chanson sans le clip qui venait, parce que c'était la seule manière de faire de la promotion, à part les spectacles puis les apparitions live. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux, là. Ça n'existait pas. Fait que c'était le clip. Puis moi, c'était idéal parce que je venais du monde du jeu avec comme comédienne, de la publicité aussi parce que j'en avais fait beaucoup quand j'étais adolescente. Mais le rêve ultime à la fin de tout ça, là, c'était de devenir Denise Filiatro à la fin de mes jours. Pas à la fin, mais pour la continuité, si tu veux. Et puis, la mise en scène m'intéressait énormément. Puis j'avais l'exemple de Gratien aussi, qui a été Gratien Gélina, qui était mon grand-père, mais qui était le précurseur. On l'appelle le père du théâtre québécois parce que, justement, avant lui, ben, il n'y avait pas de théâtre québécois. C'était du théâtre français avec des pièces françaises, avec des comédiens québécois qui jouaient à la française, des pièces qui venaient d'ailleurs. Tu sais. Il a été le premier à nous représenter devant le public québécois. Tout ça m'inspirait à créer des mondes pour chacune des chansons. Et puis, je me plaisais beaucoup à faire ça.
Mitsou sent que les jeunes de sa génération sont pas assez entendus dans la société québécoise. Avec la sortie de l'album, elle souhaite que leur ouverture sur le monde résonne haut et fort.
J'étais aucunement complexée, puis ma musique était pour tout le monde et tout le monde. Ça s'appelait El Mundo. C'était comme, ben oui, moi j'étais quelqu'un qui avait beaucoup voyagé aussi avec ma famille. On a vécu au Mexique pendant 3 mois. On a fait, bon, ma mère m'a amenée dans son pack-sac pendant toute ma jeunesse en Europe. Puis c'était normal que cet album-là voyage aussi. Et puis, on a quand même eu un succès très, très, très rapide au Québec. Mais on a eu la chance d'être signé avec BMG en France. Donc, j'ai commencé à côtoyer un an plus tard les Patrick Bruel et toute cette, équipe de promotion de BMG. Puis ça a été très difficile à ce moment-là. Il a fallu faire des choix assez crève-cœur parce que la France, c'était un investissement. Et le Québec, ben, il y avait quelque chose de sûr et une tournée qui m'attendait et un disque platine aussi que j'allais recevoir. Alors, on a décidé de se concentrer plus sur, sur ici, mais ce n'était que partie remise. Bye Bye Mon Cowboy, par la suite, a été apprécié aux États-Unis et remixé sans qu'on le demande par Shep Pettibone, qui était le producteur de Madonna. Et puis, on a fait un deuxième clip pour Bye Bye Mon Cowboy qui nous a fait remarquer aux États-Unis. Puis, quand Dis-moi est arrivé 2 ans plus tard, ben là, on a réussi à avoir un contre-disque avec Hollywood Records, qui était la compagnie de disques de Disney. Et puis, on a fait un bon petit bout là-bas aussi, sans avoir le succès que j'aurais aimé avoir, mais qui m'a donné quand même un accès à un très jeune âge, autant aux États-Unis, en Europe, que aussi dans le reste du Canada.
Si les opportunités se multiplient pour la jeune artiste, ici comme ailleurs, toute l'attention qu'elle reçoit n'est pas que positive.
La beauté d'un artiste, c'est d'avoir les antennes ouvertes, puis de ne pas être perméable. Mais malheureusement, quand tu lances un projet comme le mien, ben ça vient aussi. T'sais, le mien est venu avec un certain backlash, puis en même temps avec beaucoup de positifs. Puis je veux pas raconter mon histoire qu'avec un regard sinistre sur la chose, t'sais, parce qu'il y a beaucoup de bons. Puis il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui m'aimaient à ce moment-là. Puis si je raconte mon histoire seulement qu'avec ce regard-là, je pense pas raconter exactement la bonne histoire, tu sais. Mais oui, le backlash et la différence entre l'amour du public, mais en même temps, le manque flagrant de respect, puis ça, on appelle ça du slut-shaming maintenant, mais dans le temps, ça n'existait pas, de certains médias, d'humoristes, d'animateurs, ben c'était mon quotidien. On a cherché quand même beaucoup de bébites, puis je peux comprendre bien des choses à mon âge maintenant, à 53 ans, qui est une jalousie qui part d'expériences vécues de femmes aussi, tu sais, parce que à un moment donné, t'as des déceptions, puis je peux comprendre la jalousie de voir une jeune fille arriver dans le décor, puis prendre tout le plancher, prendre toute l'attention, pour les hommes de désirer cette femme-là aussi, puis de lui enlever du crédit, parce que ça devient beaucoup plus intéressant comme proie quand tu la fragilises, tu sais, puis c'est ce que j'ai vécu, mais c'est une partie de l'histoire. Le reste était beaucoup d'amour aussi. Moment où je collais plus à la réalité des gens, des jeunes, des adolescents qui étaient devenus des jeunes adultes. La mode avait changé. Il y avait, bon, toute la musique pop des années 80, début des années 90, c'était rendu un peu quétaine, ringard, puis on était à l'époque du grunge, de Nirvana. Puis il y avait quelque chose qui fonctionnait plus entre ce que je pouvais donner, créer comme artiste. Ça collait plus avec l'image pop que j'avais. Je suis quelqu'un qui a... Si j'ai un type d'ego, là, c'est que je ne peux pas faire du recuit. OK? Je peux pas... Il faut absolument que j'avance, puis il faut que je sois la première à avoir fait telle affaire. Sinon, ça m'intéresse pas. Mais ça ne joue vraiment pas toujours en ma faveur. Parce que si t'entendais le disque que j'ai fait en 2000, il aurait pu bien sonner en 2015 aussi, tu sais. Fait que des fois, ça marche avec Il Mundo, puis des fois, ça colle pas, puis ça accroche pas. Et j'essayais plein d'affaires, puis ça marchait pas. C'est là où j'ai commencé à avoir... Bien, j'avais déjà commencé à avoir des grandes peines d'amour par rapport à ma musique, parce que la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de continuer. Mais je ne pouvais plus gagner ma vie avec ma musique. Il fallait que je trouve une autre manière de le faire. Puis c'est le monde des affaires qui a été comme salvateur pour moi. Mais ça prenait un gros changement de d'idéo, si tu veux. Ça a été vraiment mon plan B. Mais c'est devenu un B+, ou un A-, parce que, je te mentirais pas, il y a rien de plus beau que de vivre de son art. C'est le top.
Malgré la peine d'amour musicale que Mitsu a vécue dans les années 90, elle se bâtit une carrière florissante comme animatrice et entrepreneur, tout en continuant de s'épanouir dans le milieu musical comme autrice, compositrice, interprète et productrice. Aujourd'hui, elle se réjouit des changements de culture qu'elle a pu observer au fil des dernières décennies.
C'est particulier parce que j'ai célébré en novembre dernier le 35e anniversaire d'El Mundo, mon premier album. Je me suis pas faite de party. J'ai imaginé des parties qui étaient vraiment le fun, des gros événements qui coûtaient très cher, mais que je me suis gardée en tête, peut-être pour un autre moment donné, mais par un drôle de hasard, je me suis retrouvée le soir même chez Bravo Musique, qui appartient maintenant, entre autres, à Cœur de Pirate. Et puis, j'ai parlé à plein de monde, dont beaucoup de femmes dans l'industrie, qui venaient de partout, de l'international, des superviseurs musicaux, des productrices. Et puis, à un moment donné, je suis sortie dehors, puis je me suis dit, quelle chance j'ai. Je me suis assise dans les escaliers, jasais avec du monde, des jeunes de la nouvelle génération. Puis je me suis dit, pendant toute la soirée, j'ai jasé, mais je me suis pas sentie regardée comme une pièce de viande. J'ai pas senti qu'il pouvait avoir un danger pour moi. J'ai pas senti qu'il fallait que je vende quelque chose que je voulais pas vendre non plus. Puis je me disais, ah ben, l'industrie a réellement changé parce qu'il y a des safe spaces qui se sont installés. Puis je pense qu'on parle d'une autre réalité quand même.
Il n'y a pas juste Céline est une série balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée en partenariat avec Transistor Média et animée par moi, Fabiola Nirva Aladin. Réalisation, Julien Morissette. Musique originale, montage et mixage, Jean-Sébastien Côté. Chargée de production, Florence Crête-Lafrenière. Recherche, Delphine Lamotte et Gabriel Toin. Gestion contractuelle, Julie Pelletier et Marie Gagnon. Graphisme, Étienne Dicaire, Eddie Mestre, Elisabeth Laure, chef de contenu, Ariane Graton-Jacob. Dans cette deuxième saison, on vous propose 5 autres épisodes sur les albums marquants de la musique québécoise avec Hubert Lenoir, Alexandra Strelitzky, À la claire ensemble, Marat Tremblay et Les vulgaires machins. La première saison avec Richard Desjardins, Lassa Desella, Boule Noire, Mazayen, Carquois et Fred Fortin est également disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion.
Écoutez tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.